Bien les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
Au présidentiel, le troisième homme, une position ingrate.
Avez-vous le sentiment qu'on vous a volé votre rendez-vous avec l'histoire ?
Oh, écoutez, les rendez-vous avec l'histoire, quand ils n'ont pas lieu, c'est celui qui a donné rendez-vous qui en est responsable. On ne se fait pas voler un rendez-vous.
Édouard Balladur. Au fil des 10 scrutins présidentiels, s'est constitué peu à peu un petit groupe de, comment dire, deuxième second, troisième homme, encore qu'il y eut une fois une femme. Le parcours de chacun a été honorable. Si on fait la moyenne des résultats que les uns et les autres ont obtenus, on atteint 17,5%. Pourtant, ils se sont tous retrouvés au supplice dans une position inconfortable, voire sur un siège éjectable. Un seul, cependant, jusqu'ici, s'était explicitement retiré de la vie politique. Le club des troisièmes ne s'est évidemment jamais réuni. Il compte trop d'individualités singulières ou blessées. S'il l'avait jamais fait, il aurait pu entamer une discussion intéressante sur la malédiction de la position centrale sous la Ve République. Ceux qui venaient du gaullisme et s'y retrouvaient, comme Chaban ou Balladur, en ont été bien embarrassés. Ils n'avaient plus d'autre choix que de se désister pour leur meilleur ennemi de droite. Ceux qui occupaient plus naturellement cette position centrale, parce qu'ils étaient centristes, ont pu passer pour des arbitres. En réalité, la bipolarité était si installée qu'il n'avait pas d'autorité suffisante sur l'électorat, une partie allant par habitude à U et une autre à Dia. Jean Le Canuet et son continuateur François Bayrou en ont fait l'amère expérience. On voit, entre parenthèses, combien le scrutin de 2017 est incongru. Jamais depuis 65, un centriste n'avait été en tête à l'issue du premier tour.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Pierre-François Charpentier, bonjour.
Bonjour.
Qui a eu l'excellente idée de publier aux éditions du Félin un livre sur ce thème, Le Troisième Homme, ce personnage familier, dont on n'a pas oublié le nom, mais dont on ne sait pas très bien comment l'emboîter avec les autres. Et puis, idée rigolote, cette fois, vous avez tenté un portrait robot du Troisième Homme.
Portrait robot qui fait que, comme dans le film de Carol Reed, en fait, Le Troisième Homme, c'est celui qu'on n'attend pas. Et on ne l'attend pas en fait pour deux raisons. C'est soit une révélation, quelqu'un qui surgit un petit peu de, non pas de nulle part, mais en tout cas d'un niveau relativement bas, faible, en termes de notoriété, de puissance politique. Mais à l'inverse, cela peut également être quelqu'un qui paraissait être un grand favori du scrutin présidentiel et qui au dernier moment va échouer à se qualifier à la confrontation finale, celle des deux derniers.
Mais si on fait une fiche anthropométrique, moyenne d'âge?
Moyenne d'âge, on est dans une 45 à peu près, autour de 45 ans. C'est quelqu'un qui...
Origine.
L'origine, largement, je dirais...
Provinciale.
Provinciale, mais avec, au fil du temps, des particularismes locaux qui vont disparaître.
Souvent bourgeois,
on a
catholique.
Un certain nombre effectivement de référentiels religieux, de moins en moins affirmés, mais qui n'ont pas disparu jusqu'à une époque récente.
François Fillon excède le cadre ou il est dans le cadre ?
Il est tout à fait dans le cadre.
Un peu plus vieux quand même que la moyenne que vous définissiez. On va, si vous voulez bien, commencer par la première élection présidentielle et dans cette première partie, nous intéresser d'abord aux centristes à qui il arrive d'être en position centrale. 1965, François Mitterrand a réussi une première tentative d'union de la gauche. Ça laisse un espace aux centristes. Le général de Gaulle tarde à se prononcer. Ça laisse du temps aux centristes. Et voici que survient un homme qui dirige un petit appareil, qui n'est pas tout à fait éteint, mais qui est largement débranché, le Parti démocrate chrétien, le MRP. Et cet homme, c'est une fusée.
Eh bien oui, puisqu'en effet, tout laisse à penser qu'il ne fera pas de score particulier à une présidentielle.
On n'a pas donné son nom, Cap Kennedy.
Alors c'est Dent Blanche, Saint-Jean-Bouche d'Or.
Oui, ça c'est son surnom, mais le nom, Jean Le Canuet.
Jean Le Canuet.
Ouais. 45 ans, justement. Alors vous décrivez une campagne extrêmement active,
très réussi sur le plan, on peut dire, médiatique déjà à l'origine. C'est la première campagne moderne de l'histoire des présidentielles avec un publiciste, Michel Bongrand, à l'origine d'une véritable révolution que tous les autres vont reprendre par la suite.
Par exemple,
eh bien, les grands meetings avec le faisceau de lumière qui va balayer l'homme seul face à son destin.
C'est pas facile de contrôler les lumières à l'époque
non,
dans une grande salle.
Non, et c'est une véritable prouesse technique dont on n'a effectivement pas idée aujourd'hui.
Donc il arrive dans un faisceau et il tombe des cintres parfois des confettis.
Alors des confettis de couleur verte, idée géniale à nouveau de prendre une couleur qui n'est à l'époque pas encore de référentiel politique. Et puisque ça ne doit pas être ni le rouge ni le bleu, eh bien ce sera donc le vert.
Et à la fin des meetings, c'est toujours la Marseillaise ?
Non, c'est le chant du départ. Chant du départ d'ailleurs qui sera repris en 74 par un certain Valéry Giscard d'Estaing.
Et oui, qui volera l'héritage de Jean Le Canuet. Mais d'abord on va voir comment il constitue son pécule. Le général de Gaulle au début n'est pas inquiet, il est très pas
non,
au sérieux.
Non. D'ailleurs, il dit très clairement à ses proches, je ne vais pas me présenter dans le cadre de la campagne officielle en disant, bonjour, je m'appelle Charles de Gaulle, je suis président de la République, etc. Et en fait, il ne prend absolument pas au sérieux le temps de parole qui lui est dû dans le cadre de la campagne officielle. Et le ballotage y est probablement aussi en partie le résultat de cette sorte de dédain présidentiel.
15,5%, c'est Jean Le Canuet, plus que François Mitterrand, qui permet le ballotage. Mais il se retrouve quand même obligé de quitter le podium.
Je maintiens, je confirme, je renouvelle ce que j'ai toujours déclaré. Je ne voterai pas pour le général de Gaulle et je demande à mes électeurs de ne pas voter pour lui.
Aujourd'hui, agiriez-vous de la même manière en sachant que vos électeurs ne sont pas tous anti-gaullistes?
Des hommes politiques traditionnels me conseillaient de me taire, de rester silencieux,
oui, mais vous n'êtes pas
de faire le ponce Pilate.
Vous n'êtes pas resté silencieux.
Je ne suis pas resté silencieux. Je n'ai pas voulu faire le ponce Pilate. Je n'allais pas non plus retourner ma veste. J'ai pris cette position en laissant la liberté de conscience à tous mes électeurs. Cela dit, ils se sont partagés moitié par moitié, tant il est vrai qu'au deuxième tour, l'électeur choisit beaucoup moins qu'il ne rejette.
Alors, et puis très vite, la voix qui s'élève comme une fusée vers les hautes sphères, mais la réalité terre-à-terre, les électeurs moitié-moitié.
Oui, c'est même presque tiers par tiers, dans la mesure où des gens comme l'équipe de l'Express, Servan Schreiber, adjure Le Canuet d'aller rajouter ses voix à celles de Mitterrand pour renverser la table, renverser De Gaulle. On a des gens comme Pierre Pflimlin qui se prononcent en faveur du vote blanc, et puis on a ceux qui vont jouer le jeu de l'union de la droite. Donc on est presque sur trois positions et finalement un vote qui sera quand même relativement partagé entre un vote blanc et puis un vote de ralliement tiède, on va dire, au pouvoir en place.
Mais vous dites, Pierre-François Charpentier, de Jean Le Canuet qu'il n'a pas franchi le Rubicon. C'est pas parce que les centristes sont incapables de choisir, c'est qu'ils sont prisonniers dans le système bipartite qui s'est peu à peu imposé avec la Ve République de leurs électorats.
Oui, là vous donnez une précision extrêmement capitale, c'est que les centristes, en particulier le MRP, ont été une force centrale de la 4e, de la 4e République. Et à l'époque de la 3e force ou d'autres combinaisons de ce genre. Et sous la 5e, on a effectivement une bipolarisation qui fait d'eux des alliés potentiels de la droite, c'est surtout dans ce sens-là, mais en aucun cas une force politique puissante.
Alors la même difficulté va se rencontrer avec les campagnes de François Bayrou, d'abord la campagne du bus au colza, puis la campagne en 2007 du tracteur qui avance lentement mais sûrement.
Oui, on change de moyen de transport, mais dans les deux cas, François Bayrou acquiert une popularité certaine dans l'opinion publique. Donc on peut dire que c'est très bien joué en termes de communication. Et puis cela rappelle aussi qu'il a des origines rurales, du côté des Pyrénées, du Béarn en particulier. Et ça, c'est quelque chose à quoi il est très attaché personnellement, et puis qui peut enraciner un vote.
Oui, mais attendez, vous parlez comme les médias, la communication, mais répondrait Bayrou, c'est pas à vous de dicter les thèmes, et moi j'en ai inventé.
Certes, mais effectivement, François Bayrou lui-même, quand on l'interroge, ne se prive pas de dire qu'il a volontiers utilisé ce genre de procédé. Et par ailleurs, son discours politique de 2007 en particulier est un discours qui est assez polyvalent, notamment sur parler de sujets peu évoqués par d'autres candidats, comme la dette en particulier, la dette publique, celle des finances publiques. On est en 2007, un an avant donc la crise des subprimes aux États-Unis et ce qui va suivre.
Et la couleur là, c'est...
Alors là, on a changé, puisqu'effectivement, le vert ayant été entre-temps récupéré par l'écologie, on est désormais avec l'orange, et orange qui sera repris donc par le MoDem, fondé quelques temps plus tard, quelques instants plus tard, j'ai envie de dire, par le même Bayrou.
Quand François Bayrou parle de cette campagne qui a tourné un moment, expliquez-vous, à la Bayroumania, il dit « j'ai été à un doigt ». Si j'avais pu conclure, comme ça a failli se faire, une alliance avec Michel Rocard. Il dit ça maintenant.
Oui, alors il est toujours facile, après coup, de faire parler les gens qui sont disparus. Alors, difficile de réserver un jugement définitif sur cette question-là. On sait que Michel Rocard a assisté à des universités d'été l'année précédente à la présidentielle, que c'est quelqu'un avec qui il y a pu y avoir des contacts, mais de là à ce qu'il puisse y avoir une alliance politique, là, pour le coup, il n'y a rien qui a été tout à fait établi. Peut-être, pour préciser les choses, on s'est posé la question de quel serait le Premier ministre, effectivement, d'un éventuel François Bayrou donné gagnant, et il avait répondu « je voudrais un Delors jeune », ce qui d'ailleurs avait eu le don de mettre en colère le principal intéressé.
18% pour lui au premier tour, alors il n'est pas qualifié, mais Ségolène Royal, à près de 26%, a absolument besoin de ses voix. Aussi une proposition ingénieuse naît-elle qu'on a peut-être oublié, c'est un cas unique dans l'histoire de la Ve République, qui ne va pas se rééditer cette année, hein. C'est un débat entre la seconde et le troisième.
Ce n'est pas encore un débat, mais déjà une saga, avec en haut de l'affiche un duo, François Bayrou, Ségolène Royal. Ex-adversaires, ils veulent désormais se parler dans les yeux, avec des caméras, et accusent Nicolas Sarkozy de torpiller leur projet.
Je crois que le système médiatico-financier auquel est lié Nicolas Sarkozy a en effet, comme le dit François Bayrou, essayé de faire en sorte que ce débat n'existe pas.
Si rénover la vie politique, c'est faire des procès de Moscou, comme ceux auxquels on assiste depuis quelques heures, c'est pas de la rénovation de la vie politique.
Alors il va avoir lieu ce débat aux grandes dames du CSA, qui est toujours très préoccupé de ses calculs très précis.
Et qui est très embarrassé, en l'occurrence.
BFM, RMC, ça se termine. Ça se termine comment?
Ça se termine par le fait que la montagne va accoucher d'une souris, dans la mesure où Ségolène Royal a absolument besoin des 18% de François Bayrou pour espérer l'emporter, et donc affirme presque d'une forme d'auto-persuasion que tout est d'accord, tous les problèmes, toutes les difficultés sont aplanies entre les deux candidats, mais ce qui n'est absolument pas le cas du côté de François Bayrou et encore moins de ses électeurs.
C'est pour ça que ceux qui ont l'état d'esprit centriste sont sur un nuage actuellement. François Bayrou, il a pu dire « je ne veux pas Sarkozy ». Il a compté, hein, mais ça lui a été compté, ça, par les partisans de Sarkozy. Mais il n'a pas pu dire « je vote Ségolène Royal » et ça lui a été compté par les partisans de Ségolène Royal.
Alors, on retrouve effectivement dans le contexte de 2007 des choses qu'on avait déjà vues en 65, d'où l'évocation précédente de Jean Le Canuet. Et en effet, avec des scores conséquents, puisque tout de même 15%, 15,5% et 18%, 18,5% des voix, ce sont des scores tout à fait conséquents, mais dont les dépositaires ne savent que faire au deuxième tour, faute de pouvoir effectivement les offrir à l'un ou l'autre des deux finalistes.
Enfin, Ségolène Royal elle-même, elle est prisonnière, parce qu'un certain nombre de socialistes sont très mécontents des avances qu'elle fait, parce qu'elle va jusqu'à donner une sérénade, les plus jeunes ne le croiront pas, sous les fenêtres de François Bayrou, à Paris.
Oui, il y a cet épisode absolument étonnant. Donc là, on a effectivement quelque chose qui est très symbolique, si l'on ose dire. Et puis, on a eu aussi...
Attendez, elle a sonné à la porte, quoi.
Oui, voilà, tout à fait.
D'accord. Non, mais...
Et puis, on a ces déclarations d'entre-deux-tours que l'on connaît tous sur la possibilité de faire des gouvernements de coalition, un gouvernement de coalition.
Mais si vous voulez bien, on reste un instant romantique. C'est Valérie Aestaray, notre réalisatrice, qui le souhaite. Et elle a sorti le grand jeu. Une sérénade napolitaine de Léon Cavallo avec José Carreras.
Joyeux trouvador, je vais nuit et jour chanter mon amour, ma belle. Je suis près de toi, le cœur plein de moi, prends pitié de moi, cruelle. Accorde une voix méchante, écoute ma voix qui chante. La fille de mes, je vais t'adorer. La vie de mes, je vais t'adorer. Et qu'il est dernier. Voici le beau jour, le temps des amours, partons pour toujours, ma belle. Fuyons tous les deux vers le pays bleu où mon cœur joyeux t'appelle. Sous le ciel charmant du rêve, que notre romance s'achève. La vie de mes, je vais t'adorer. La vie de mes, je vais t'adorer. Mourant dans un dernier baiser.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
On rejoue la présidentielle. On parle des troisièmes hommes. Avec Pierre-Frédéric Charpentier, si on était une émission sérieuse d'histoire politique, on vous appellerait PFC. Hein. Aux éditions du Félin, vous n'êtes pas contre?
Absolument pas.
Vous publiez un livre sur ce thème. Alors, deuxième partie, soyons ordonnés, quand le troisième homme est un gaulliste. 1974, le président Georges Pompidou meurt prématurément. Et Jacques Chaban-Delmas se présente de suite. Il avait la réputation d'un sprinteur. Marie-France Garraud, conseillère de Jacques Chirac, lui fait la réputation d'un sauteur. Il a sauté dans le cercueil de Pompidou, dit-elle.
Oui, c'est le drame de 1974 sur la succession. Là, on a vraiment quelque chose qui est dramatique avec la mort d'un président en exercice. Et Jacques Chaban-Delmas aimerait tant succéder avec beaucoup de naturel à Pompidou, comme Pompidou l'a fait lui-même avec De Gaulle. Et malheureusement, les choses non seulement ne se passent pas comme prévu, mais c'est même une succession de contre-coups, de catastrophes.
Alors, il se présente d'abord trop tôt, au moment où on met le président en terre.
Au moment même de la cérémonie.
Et voici que surgissent un certain nombre, comment dirait François Fillon, d'obstacles trop nombreux, trop cruel. La campagne a été beaucoup plus courte que celle de 2017, mais les affaires, à commencer par celles révélées depuis un moment sur la feuille d'impôt de Jacques Chaban-Delmas, n'ont pas manqué.
Alors la feuille d'impôt remonte déjà à 1972, mais les Français l'ont effectivement en mémoire. Et le reproche,
il y avait un mécanisme qui s'appelait l'avoir fiscal, oui, mais monté par Giscard d'Estaing, qui va se présenter lui aussi, et qui permettait à qui investissait en toute légalité, de payer les impôts d'un médecin de campagne avec les revenus d'un mandarin.
Le dispositif est parfaitement légal, et d'ailleurs, au passage, Giscard d'Estaing se fera un plaisir d'expliquer lui-même l'avoir devant un tableau blanc, un tableau créé à la main, dirais-je. Et en effet, c'est la première des différentes difficultés auxquelles se trouve confronté Chaban-Delmas, qui traîne cela vraiment comme un boulet, on le lui rappelle durant la campagne. Et pendant la campagne, il y a tout un tas de boules puantes, comme on a dit depuis, qui vont s'ajouter à cela avec des écoutes téléphoniques, des RG, des faux sondages, des tracts malveillants disant qu'il a, comme il a eu un veuvage, qu'il a fait assassiner sa précédente épouse pour se remarier avec sa maîtresse, enfin des choses de genre là. Et lui-même d'ailleurs l'évoque dans ses spots de campagne officielle.
On ne tire pas sur une ambulance, dit Françoise Giroux, dans le journal de JSS, mais les affaires ne suffisent pas à expliquer un échec.
Non, en effet. Et là, ça serait vraiment très réducteur de se limiter aux seules affaires, puisqu'il y a aussi un profil. Très clairement, Chaban-Delmas manque d'épaisseur, s'est ressenti comme tel dès l'époque, pour ceux qui s'en souviennent.
Mais pourtant, il a de l'âge.
Oui, oui, il a de l'expérience. Il a été Premier ministre, il a été efficient. Des gens comme Giscard d'Estaing le reconnaissent volontiers.
Et, c'est pas un avantage d'être passé par Matignon.
Non, non, clairement, c'est, même s'il y a eu un délai, ça apparaît comme une forme de handicap.
Il était l'homme de la nouvelle société, mais la société nouvelle paraît déjà usée. C'est pas assez nouveau pour rivaliser avec Giscard. C'est pas assez social pour rivaliser avec Mitterrand.
Oui, c'est quelqu'un qui est louable. Il essaie de tenir compte des aspirations de la jeunesse après 68. Mais il reprend de manière mécanique en 74 la nouvelle société comme s'il ne s'était rien passé depuis. Or, il a quitté le pouvoir en 72. Donc là, les Français trouvent qu'il y a un problème en termes de contenu, en termes de programme et ne suivent pas.
Il va faire deux fois moins de voix que Valéry Giscard d'Estaing et sa réaction.
Pour l'immédiat, la présence du Parti communiste autour du candidat socialiste, comme les dangers du programme commun, me conduisent à confirmer mon opposition résolue à cette candidature.
Mais je vous demande encore quelques secondes de patience, car ça peut tout de même que... Avec mais bien non, c'est simplement, quelques mots de remerciement à ses collaborateurs,
et leur dire combien leur ancien confrère
qui ont
apprécié leur comportement.
Monsieur Chambrel-Mas, ça fait aucun commentaire politique.
Et cette déclaration
va vous être distribuée. Bonsoir à tous et
bonne chance.
Bon, les propos qu'on a entendus sont moins clairs que le désistement annoncé, mais je redis ce que Chaban confiait à cet instant. Il remercie les journalistes.
En tant qu'ancien journaliste lui-même.
Parce que les affaires sont nées dans le canard. Et oui, elles ont été reprises.
Oui, oui. Elles ont été largement divulguées par les services du ministère de l'Intérieur qui, à l'origine, à l'époque, sont occupés donc par, enfin, dirigés par Jacques Chirac, au passage. L'appel des 43 qui va continuer.
Les 43, c'est Chirac qui lance une chaloupe de sauvetage avant le naufrage. Oui, mais enfin, il remercie les journalistes. Je voulais juste y insister lourdement. 1900.
Alors, au passage, on entend le ton de sa voix qui contribue à le desservir. Et si vous voulez voir un exemple d'un suicide en direct dans un spot de campagne. Là, je recommande à tous nos auditeurs d'aller chercher sur un moteur de recherche Jacques Chaban-Delmas, André Malraux et voir le fameux clip de campagne de 1974 entre les deux hommes où on a ce qui s'est probablement fait de pire en la manière. Et d'ailleurs, Chaban-Delmas l'a reconnu lui-même avec beaucoup d'élégance et d'autodérision.
Enfin, entendez quand même, maintenant nous passons à un dernier exemple, 1995, qu'Edouard Balladur, lui-même Premier ministre, alors en exercice, n'était pas non plus excellent en communication. Je ne sais pas parler verlan, disait-il. Je ne sors pas quotidiennement en boîte de nuit. Mais insistons d'abord sur le handicap Matignon. Toujours Matignon.
Toujours le problème de Matignon ou comment passer directement de Matignon à l'Élysée. Et pour l'instant, personne n'y est arrivé. Et ce que Balladur ne va pas réussir à faire, Jospin lui-même, 7 ans plus tard, pardonnez-moi, n'y arrivera pas non plus.
Les thèmes qui impriment, c'est Balladur, il en fournit un certain nombre, mais c'est Chirac qui imprime.
Oui, bien sûr, avec là la fracture sociale d'heureuse mémoire, cette formule...
Qui est allé pêcher dans un cercle d'intellectuels.
Oui, alors on a cité à plusieurs reprises des gens comme Emmanuel Todd, par exemple, qui ne l'inspire pas directement, mais on est allé effectivement chercher ce thème pour illustrer l'idée d'une France fracturée, effectivement, en plusieurs bords, notamment deux, ceux qui feront après ce qu'on appellera plus tard la France d'en haut, la France d'en bas, des thématiques qu'on retrouve d'ailleurs dans le débat d'aujourd'hui, et Chirac s'en inspire, et à contrario, on ne retient rien du programme d'Edouard Balladur, si ce n'est le fait de se continuer lui-même, mais à un autre poste.
Alors la difficulté à abolir la distance avec les électeurs.
Très difficile. Là, on a quelqu'un qui est une véritable bête de scène, qui n'est autre que Jacques Chirac, qui est vraiment un très grand communicant professionnel, qui sait faire, et quelqu'un qui n'y arrive pas. Balladur essaye, mais il n'y arrive pas. Il semble, comme dit un de ses proches, je ne sais plus si c'est Charles Pasqua ou Nicolas Sarkozy qui le dit, mais il semble souffrir lorsqu'il fait des bains de foule.
Enfin, quand même, il se laisse appeler parfois Doudou.
C'est la grande réunion finale, le dernier grand meeting, où il monte sur une table, et ce qui vaudra d'ailleurs le troisième prix de l'humour en politique à François Baroin à l'époque, qui dit qu'on ne s'élève pas en montant sur une table, ce n'est pas en montant sur une table qu'on parvient à s'élever.
Et c'est au cri, non pas de Doudou, mais d'Edouard, qu'il intervient le soir du premier tour. Les résultats ont été un moment incertain. Pendant quelques minutes, les instituts de sondage ont dû mettre 3 photographies. Alors le Jospin qui vire en tête, mais Balladur et Chirac tout à la fois, mais Balladur a fini par être distancé à 18,9%.
question. Ça suffit, ça suffit. Laissez-moi. Taisez-vous, s'il vous plaît. Taisez-vous, s'il vous plaît. Et laissez-moi faire ma déclaration. Tout démontre que les Français l'ont décidé. C'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Au deuxième tour, je voterai pour Jacques Chirac et je demande à tous ceux... Et je demande à tous ceux qui m'ont soutenu de le faire aussi.
Voilà, je ne sais pas si Édouard Balladur est plus césarien que Jean-Luc Mélenchon, je n'en suis pas sûr, mais il n'est pas aussi habile, il ne fait pas appel aux plateformes participatives. Taisez-vous.
Non, non, là au moins l'interpellation est très directe. D'ailleurs, il s'inscrit dans la continuité de Jacques Chaban-Delmas, qui avait été le premier à se prononcer au soir du premier tour en faveur à donner son avis sur le second tour, puisqu'il a du mal, Chaban-Delmas a du mal à prononcer le nom de Giscard d'Estaing. Là au moins, avec Édouard Balladur, les choses sont dites.
Oui, mais les militants sont dépités.
Oui, parce que Édouard Balladur a paru pendant l'époque où il était à Matignon, rassembler les droites. Faut quand même se souvenir que la droite avait été fracturée par la querelle Chirac-Giscard d'Estaing en 81, par les trois droites, Barre, Chirac et Le Pen en 88. Et pour la première fois, un homme providentiel semblait faire la synthèse des deux droites libérales et conservatrices.
Mais quand on entendait au tout début de l'émission Édouard Balladur ironisait sur lui-même, si j'ai raté le rendez-vous avec l'histoire, c'est ma faute, c'est pas la faute de l'histoire. On voit que, comme Raymond Barre d'ailleurs, il était capable d'une certaine distance par rapport à lui-même. J'ai trouvé dans votre livre, Le Troisième Homme, aux éditions du Félin, cette citation de Lionel Jospin à propos de Raymond Barre, ou est-ce que c'est à propos de Jean-Luc Mélenchon. Le vrai professionnel de la politique, même orgueilleux, est humble.
Oui, là on a effectivement une sorte de règle d'airain fixée par Lionel Jospin dans un texte consacré à la défaite de Raymond Barre en 88, une sorte d'analyse de scrutin, et qui semble fixer des règles qui pourront d'ailleurs lui-même, le concerner lui-même.
C'est les règles de l'éthique de l'échec.
Oui, une forme de conviction, l'idée que les choses, dans le cadre évidemment du grand favori, l'idée que les choses ne sont pas écrites à l'avance. Je rappelle effectivement qu'au début de 95, certains intervenants pro-Balladur, pas Balladur lui-même, mais certains de ses soutiens, annoncent qu'il sera peut-être le premier président de la République élu au premier tour. Et on voit ce qu'il en est advenu ensuite.
Mais une dernière réflexion qui fait aussi écho au présent. Dans le cas des victoires de Jacques Chirac, on voit que Jacques Chirac n'a pas élargi sa majorité, refusant de tenir compte de ceux qui avaient voté pour lui au second tour. Il y a aussi peut-être une éthique de la victoire qu'il conviendrait de redéfinir aujourd'hui.
La victoire en politique ne s'embarrasse pas de sentiments, et ça on le voit en 2002. En 2002, grand élan républicain, de deuxième tour,
oui,
les
80%. Mais ça peut être une erreur.
Oui, c'est peut-être une erreur. En tout cas, c'est un reproche qu'on lui a souvent fait, en lui disant « vous allez pouvoir élargir ». Et le commentaire vis-à-vis des Balladuriens est très simple, pas de prisonniers.
Pas de prisonniers.
Pas de prisonniers.
Oui. Bah peut-être faut-il faire preuve de davantage de bienveillance aujourd'hui. Enfin, je ne veux pas tirer davantage de leçons de votre livre. Fort intéressant, Le Troisième Homme aux éditions du Félin. Merci à vous, Pierre-Frédéric Charpentier.
Merci.
L'émission a été préparée par Franck Olivard et Nathan Gallo, avec à la technique Gilles Gaillard et à la réalisation, je l'ai déjà dit, je crois, Valérie Estaraï. Et dans un instant, dans la tête au carré, quel est le programme?
On va un peu prolonger votre sujet, Jean. On va parler de communication, de science de la communication et entre autres de communication politique.
Oui, mais enfin, vous préconisez la fin de la communication.
Ah, je ne préconise rien. C'est mon invité qui va en parler.
À tout à l'heure.